Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est Florence Monzani, c'est elle qui a accepté de nous donner ses notes. Auditrice, auditeur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes, que j'ai le grand plaisir et l'honneur d'animer. Je veux aussi vous dire combien je suis ravi des témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de cette émission Donnez-nous vos notes. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir aujourd'hui les notes que Florence Monzani va nous donner, que dire, va nous offrir. Bonjour Florence Monzani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, jeudi 28 juin 2024. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC diffusée sur 93.4 et 92.5 pour les amis de Sainte. Bonjour Jean-Marc, merci aussi à toi pour la technique que tu sais toujours déployer au bénéfice de toutes celles et de tous ceux qui sont à l'écoute. Et merci du soutien que tu apportes à l'animateur que je suis. Alors donc aujourd'hui c'est Florence Monzani qui se prête au jeu. C'est elle qui va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales, que sais-je encore. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical et humain. Florence va nous dire comment elle vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Florence va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres. Florence Monzani, vous êtes prête?
Mais tout à fait.
Alors Florence, donnez-nous vos notes. Avec Stéphane sur RDC pour Donnez-nous vos notes. Sur RDC 93.4, 92.5, Florence Monzani, notre invitée du jour. Florence, qui êtes-vous?
Je suis musicienne, claveciniste.
Claveciniste, qu'est-ce à dire?
Eh bien, ça veut dire que je joue du clavecin.
Ouh là là, vous allez nous parler du clavecin, donc ce matin sûrement, nous faire entendre du clavecin, peut-être jouer du clavecin, ou en tout cas un instrument, un petit frère du clavecin, tiens, ou un cousin, je vais l'appeler comme ça, tout ça, ça sera pour tout à l'heure, mais vous êtes claveciniste comme ça du jour au lendemain, ou vous avez suivi une formation ou...
Alors, je suis née dans une famille dans laquelle mes parents étaient mélomanes, et au siècle dernier, dans les années 70...
Au siècle dernier, comme il y va, si les parents entendent...
Mon papa a entendu à la radio, sur France Musique, une émission qui parlait du clavecin, et il a entendu le son de cet instrument et il a eu le coup de cœur pour le son de cet instrument, sans savoir à quoi ressemblait un clavecin. Et dans cette émission, on disait qu'on pouvait construire des instruments en kit. Donc il était très bricoleur et il a décidé de construire un instrument en kit. Donc il a commandé un instrument qui est arrivé en un tas de planches, sans mode d'emploi.
Un tas de bois.
Voilà, un tas de bois. Donc il paraît qu'il y a eu deux ou trois nuits un peu compliquées. Le mode d'emploi est arrivé par la poste ensuite.
Quand vous dites des nuits compliquées, c'est avec la construction, je suppose.
Alors oui, aussi. Mais voilà, donc il a décidé de construire cet instrument dans les années 70. Il faut savoir quand même qu'il y avait très peu d'instruments à l'époque. Et dans le conservatoire de la ville où je me trouvais, il y avait un clavecin, mais c'était extrêmement rare. Donc voilà, je suis arrivée comme ça.
Et alors après, comment vous avez continué ?
Eh bien, je suis rentrée dans la classe de clavecin, et puis au fil des années, j'ai continué à pratiquer.
Papa, la classe de clavecin, où ça, alors ?
À Aix-les-Bains, en Savoie. C'était une des premières classes de clavecin ouvertes.
La famille est originaire de là-bas,
oui,
hein, de l'autre côté de la France.
Voilà.
Par rapport à nous, évidemment. Aix-les-Bains, oui, et après ?
Et donc, de fil en aiguille, Aix-les-Bains, Chambéry à côté, parallèlement à mes études au lycée, et puis j'ai décidé, après le bac, de me consacrer à ça, donc le Conservatoire supérieur de Genève. Et puis,
vous avez franchi une frontière alors.
Oui, mais je suis suisse également, donc c'était très compliqué d'aller jusque-là. Mm-hmm. Et voilà. Et ensuite, le diplôme d'État, le certificat d'aptitude pour permettre d'enseigner, jusqu'à arriver il y a un peu plus de 20 ans maintenant en Charente, où je suis professeur au Conservatoire du Grand Angoulême.
Depuis déjà 20 ans.
Ah oui, 24.
Ah, tout passe, on ne le dirait pas, hein, parce que bon, vous êtes âgé de quel âge ? Vous avez 30, 25 ans,
oui,
je crois.
Oui, bien sûr, et demi.
Et demi, bien sûr. Et puis, vous avez une formation en clavecin, certes, mais peut-être dans d'autres domaines, le chant.
Alors oui, j'ai fait pas mal de chant aussi. Je m'intéresse aussi beaucoup au théâtre, donc à tout ce qui tourne autour des arts et mise en scène.
Oui. Et tout ça parce que c'est un choix de votre part ou c'est...
Oui, c'est vraiment un choix, une envie.
Et quand on est dans le domaine de la musique ancienne, je crois, en tout cas, on a des formations dans des mots qui sont des mots barbares pour moi, basse continue. Qu'est-ce que c'est tout ça ?
Ah, c'est des compléments de ce qu'on apprend pour développer la musique et nos instruments. Oui.
Et tout ça vous permet, je le suppose, de donner des concerts ?
Oui, avec des ensembles, avec des amis...
Uniquement dans la musique ancienne ou dans d'autres domaines aussi ?
Alors, on va dire essentiellement vraiment dans la musique ancienne, à part le théâtre. Où je suis
la musique ancienne, c'est une période de l'histoire, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est une période, on va dire, qui englobe en gros l'époque de la Renaissance jusqu'à la Révolution française.
Et mon petit doigt m'a dit qu'il y a un site que vous avez créé qui s'appelle « Je peux pas ». J'ai clavecin, qu'est-ce que c'est ça ?
Alors c'est un site que j'ai créé pour mes élèves à la base, parce qu'il y a...
Vous avez eu le possessif, mes élèves.
Ceux qui travaillent avec
alors,
moi.
Alors les élèves, c'est votre prof qui parle.
Ouais. Et donc c'est un site où je rassemble depuis de nombreuses années maintenant plein de choses autour du clavecin. Donc tous les morceaux qu'on travaille, des tutos, des vidéos, des choses autour de la culture musicale au sens large du terme. Et puis j'ai élargi un petit peu du côté de la formation musicale pour les aider un peu. Voilà,
et quand on va sur ce site, j'ai eu la curiosité de le faire plusieurs fois d'ailleurs, je dois vous l'avouer, même avant que je sache que vous alliez être invité de cette émission aujourd'hui, mais il y a des mots qu'on peut lire, voir, qu'on peut entendre, parce qu'il y a des morceaux, des passages qui sont enregistrés, diffusés en vidéo. Hein. On a échelle, cheval à bascule, la luge, galipette, petite souris, tambourin, où l'on apprend que le rondeau, c'est finalement le refrain, tremblement, pincé, mordant, la petite chèvre, gym au sol, ronde des notes. Moi, je trouve ça assez surprenant. Comment ça se fait qu'on a tous ces mots-là ?
Ce sont des petits titres de pièces qui sont écrites pour les élèves, donc pédagogiquement.
Écrites par vous ?
Oui.
Ah, donc vous êtes aussi compositrice ?
Oui, des compositions originales dans un but pédagogique.
Ah, j'aime beaucoup. Oui. Redites la formule, composition ?
Originale dans un but pédagogique.
Magnifique, il faut vraiment déposer ce terme. En tout cas, ce sont des mots extraits de votre pédagogie, finalement.
Oui.
Et sans doute aussi des expressions qui l'accompagnent, illustrées par des compositions et celles auxquelles vous faisiez allusion notamment. Et pour que cela finalement puisse parler du clavecin à tout un chacun, petit, grand, oui. Débutant, moins débutant, en cours de formation, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et si je vous dis, promenons-nous sur le clavier, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Promenons-nous sur le clavier, c'est une petite histoire que j'ai écrite pour des élèves qui, à l'époque, débutaient, ils étaient vraiment tout petits,
donc,
milieu.
Si vous avez envie, auditrice, auditeur, de débuter le clavecin, vite sur le site de Florence et vous écoutez, promenons-nous sur le clavier, pardon.
Oh, voilà. Et donc, c'était des tout petits qui étaient en moyenne section de maternelle, donc du coup, j'avais pas de matériel pédagogique adapté pour eux, donc j'ai écrit une petite histoire qu'on a jouée à Noël, et je me suis dit, en fait, on va pouvoir l'éditer pour que ça puisse rayonner sur les autres élèves de clavecin, d'ailleurs.
Voilà, donc auditrice, auditeur, vous avez déjà entendu pourquoi aujourd'hui, Florence, pourquoi Florence est avec nous et ce qu'elle va pouvoir nous dire, Florence Monzani, sur RDC.
Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Et aujourd'hui, c'est avec Florence Monzani. Alors, on a parlé un petit peu, Florence, de votre histoire, de vos activités, de vos projets, mais vous nous dites que vous êtes claveciniste, c'est bien. Moi, je vous ai dit, il faudra le prouver. Alors Florence va nous jouer quelque chose sur un instrument dont, qui n'est peut-être pas tout à fait un clavecin, mais bon, on y reviendra tout à l'heure, elle nous dira ce que c'est. En tout cas, la voilà. Elle nous joue 3 courtes pièces, c'est ça, en direct, de Elizabeth Rodgers, et tirée du Virginal Book qu'elle a écrit, pas Florence, Elizabeth. Quelques secondes de silence, j'ai été obligé de les laisser parce que c'est vraiment superbe. Merci et bravo, c'est les deux mots qui me viennent tout de suite, vraiment, parce que en plus en direct, sans préparation, il faut oser le faire. Tout le monde n'est pas d'accord pour oser ça, donc merci aussi pour ça. 3 pièces, 3 courtes pièces, donc extraites du Elizabeth Rodgers Virginal Book. Qu'est-ce que c'est c'est un recueil de pièces, c'est ça?
C'est un recueil de pièces de des compositeurs qu'on appelle les virginalistes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit pour le virginal.
Ah, alors est-ce que ça serait le virginal dont vous avez joué tout à l'heure là?
Voilà, c'est ça. Donc le virginal que j'ai joué, en fait, c'est un instrument, là, il est posé sur la table à côté de nos micros, il fait la taille d'un petit bureau d'enfant, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est, justement, je parle d'enfant, c'est une partie d'un virginal double qui s'appelle « La mère et l'enfant ». Et donc quand on décrit ça, on comprend très bien à quoi ça correspond. Il y a un grand virginal principal qui sonne en fait plus grave que celui que j'ai joué.
Parce que les cordes sont plus longues.
Parce que les cordes sont plus longues, donc il s'appelle la mère. Et à l'intérieur de la mère, il y a un petit espace comme un kangourou en fait, pour mettre l'enfant. Et on peut jouer, alors là ce matin je suis venue avec l'enfant tout seul, et on peut jouer l'enfant tout seul, on peut jouer la mère toute seule, et on peut poser l'enfant sur la mère, et à ce moment-là on a les deux qui jouent en même temps. Donc c'est vraiment un instrument à la fois familial, pédagogique. C'était un petit clin d'œil aussi quand papa a construit cet instrument.
Papa a construit cet instrument. Ah,
oui.
Est-ce que ça serait un Jean-Charles Monzani?
Voilà, c'est ça, celui qui a construit le kit au siècle dernier.
Dont on parlait tout à l'heure.
Et qui n'en a pas construit qu'un seul.
Ah, d'accord. Donc il continue. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa fille, hein?
Oui,
voilà.
Oui.
Voilà, bravo papa Monzani. C'est bien, super. Surtout continuer. L'instrument est une copie, c'est ça?
Oui, c'est une copie.
D'après une copie, ça veut dire une reproduction?
Voilà, une reproduction d'après un instrument de 1620 d'Andreas Rückers.
Donc c'était bien avant le siècle dernier.
Oui,
ça.
Donc ça c'était bien avant le siècle dernier. En Flandre, il y avait une dynastie, en fait, les Rückers à Anvers, qui a construit, on peut estimer à peu près 3000 clavecins et épinettes.
Ah quand même. Et épinettes, c'est un mot dont on reparlera tout à l'heure.
Voilà. Et virginal, et donc voilà, c'est une copie.
Pourquoi ça s'appelle virginal?
Alors, peut-être parce que, suivant les représentations, si on voit les tableaux de l'époque, on a souvent des jeunes filles qui jouent de cet instrument-là.
Les jeunes vierges.
Voilà, donc ça peut être cette origine-là.
Alors le clavecin, donc, finalement, est-ce que ce clavecin, c'est un terme générique ou comment ça se...
Alors, on peut dire que oui, clavecin, c'est un terme générique à partir du moment où vous avez le système qu'on appelle la corde pincée. Donc, ce n'est pas mes doigts qui pincent directement la corde. Hein. C'est un petit mécanisme au bout de la touche avec un bec en plume d'oiseau.
Donc, c'est la même famille, pardon de vous interrompre, que la harpe par rapport au pincement de la corde ou de la guitare, ça ressemble, c'est ça ?
C'est tout à fait cousin, oui. Ouais. Beaucoup plus qu'avec le piano.
D'accord. Bah oui, le piano, c'est des cordes frappées, je crois, hein, par un marteau. Même si c'est un clavier, et c'est ça le point commun, ou peut-être le sujet qui permet de, ou qui porte à confondre,
oui,
parfois, c'est donc instrument à clavier, on va dire.
J'aime bien dire que le clavecin est un cousin éloigné du piano, mais éloigné.
Et les cordes virginales, elles sont parallèles au clavier ou perpendiculaires, comment ça se passe?
Alors, en fait, dans un virginal, les cordes sont parallèles au clavier, alors que dans un clavecin, elles sont perpendiculaires, voilà. La forme est différente.
Donc le virginal a une forme rectangulaire,
oui, hein, voilà.
Comme un petit bureau. Ça fait quoi? Un peu plus d'un mètre, hein, finalement.
Là, le petit que j'ai, il doit faire dans les 70 cm.
Ouais. Ah, moins que ce que je pensais. Donc, en France, pour le clavecin, on ajoute parfois un deuxième clavier.
Oui.
Ça sert à quoi, hein?
Alors, ça sert à avoir différentes sonorités en même temps, ou mélangées. Parce qu'en fait, contrairement au piano, où vous allez pouvoir faire des nuances quand vous appuyez différemment sur la touche, sur un clavecin, il n'y a pas de nuances. On joue sur les articulations.
Les articulations, excusez-moi, mais...
C'est la manière dont je sépare les notes.
D'accord.
Avec mes doigts. Donc, tout est fait avec les doigts. Il n'y a pas de pédale.
L'enchaînement des notes.
Voilà, c'est ça.
Pédale,
il n'y a pas de choses plus fortes. Donc, l'intérêt du deux claviers, c'est de pouvoir mélanger les plans sonores en même temps.
Et on ajoute aussi, je crois, des registres.
Alors, les registres, c'est l'endroit où la mécanique est encastrée et qui permet justement de choisir le son que l'on veut, la corde qui est
pincée. On peut avoir avec un clavecin, un instrument, plusieurs sons.
Oui, tout à fait, parce que plusieurs rangs de cordes. Alors que sur un virginal, il y a un seul clavier et un seul rang de cordes. Donc, une seule sonorité possible.
D'accord, et on peut avoir des jeux, le jeu de luth, ça existe, ça?
Oui, le jeu.
Luth, L-U-T-H, hein, c'est pas la bagarre.
C'est ça, le luth, c'est un instrument un petit peu comme la guitare,
oui.
Donc des cordes pincées, et le jeu de luth, c'est un principe avec une petite pièce de feutrine ou de cuir, éventuellement, qui vient se mettre contre la corde, qui fait un son un tout petit peu plus bizarre, comme ça.
Et le jeu de quatre pieds aussi, j'ai entendu parler de ça.
Et le jeu de quatre pieds, alors c'est l'instrument que je viens de jouer, c'est-à-dire
voilà.
C'est quand l'instrument a un son très aigu.
Et puis, tout ça se déclenche avec des manettes, des tirettes, dans certains clavecins, non ?
Voilà, c'est ça. Donc, c'est les registres qu'on actionne avec des tirettes.
Ouais. J'ai souvent, moi, en mémoire, l'image, et je le vois ici avec ce virginal, l'image d'un instrument très décoré, très orné, avec des peintures, avec des représentations. Comment ça s'explique, ça ? C'est parce que c'était aussi un objet de décoration, le clavecin, à une époque, dans la famille, dans
oui,
une famille aisée, on va dire, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'était un instrument qu'on aimait décorer si on en avait les moyens. Pour avoir une petite idée, un virginal au XVIIe siècle, ça valait à peu près l'équivalent d'un an de salaire d'un ouvrier qualifié pour un virginal, et un clavecin c'était 2 à 3 fois le prix, d'où le fait qu'on a fabriqué beaucoup de virginales. C'est un peu, j'aime bien dire, le piano droit par rapport au piano à queue. C'était l'instrument qu'on pouvait facilement avoir à la maison, donc on aimait facilement les décorer également.
Et alors, quand vous donnez un concert, vous jouez de quel instrument?
Un peu de tous.
Un peu de tous, ça arrive. Je crois, pour ne rien vous cacher, auditrice auditeur, avoir récemment vu et entendu Florence jouer avec un groupe qui s'appelle Les Éphémères.
Oui.
Et dans ce groupe-là, vous avez plusieurs instruments vous-même. Il y a aussi une flûtiste, c'est ça?
Oui, il y a une flûtiste,
et puis, il y a
deux
chanteuses. Alors c'est Laure, Morgane, les chanteuses,
Aurélie
à la flûte, et vous au clavier, au clavecin en particulier. Je les salue toutes les trois et je leur dis qu'elles sont invitées, bien sûr, pour une prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4, 92.5. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. C'est sur RDC, on reçoit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Florence Monzani. Tout à l'heure, vous avez prononcé un mot, non pas un gros mot, vous avez parlé d'épinette. Alors, virginal, épinette, clavecin, pouvez-vous nous préciser un petit peu tout ça, ces appellations?
Alors, tout ça, c'est des cousins très proches. À partir du moment où vous avez la corde pincée avec un système qu'on appelle le sautereau et le bec...
Le sautereau, ça veut dire quoi? Ça saute?
Oui, voilà, c'est ça saute. C'est une petite barre de bois sur laquelle est posé le bec, et le bec vient pincer la corde. Donc, clavecin, épinette, virginal, muselard, voilà encore un autre grand mot.
Comment ça s'écrit, ça, hein?
M-U-S-E-L-A-D L2AR. En fait, le muselard, c'est comme un virginal, mais avec un son un petit peu différent, parce que ça dépend de l'endroit où est pincée la corde. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est encore deux cousins très
petits. On est quand même dans la grande famille du clavecin,
ouais,
on va
tout
dire,
à
autour
fait.
Du clavecin, clavecin et associé.
Tout à fait.
Alors, Florence, vous êtes claveciniste, certes, mais vous avez aussi suivi des études de chant, je crois.
Oui.
Et puis vous avez chanté dans plusieurs ensembles vocaux, peut-être.
Oui, et puis en soliste aussi, j'ai fait pas mal d'études de chant. Oui.
Dans quelle tessiture de voix?
Soprano.
La soprano, donc c'est la voix la plus aiguë, oui, chez les voix de femmes, c'est
oui,
ça? Soprano, alto ou mezzo, plutôt alto chez les femmes, ténor, baryton et basse chez les hommes en général, c'est cette classification qu'on donne. Et vous avez rencontré un chef de chœur qui s'appelle Michel Corbeau.
Oui.
Même s'il y a un Z à la fin, on ne prononce pas. Et pourquoi on ne prononce pas? C'est une habitude de outre-frontière côté suisse, c'est ça?
Oui, Michel
Et
Corbeau.
Peut-être un peu en Savoie aussi, déjà, on commence à ne plus prononcer les Z. Alors, C-O-R-B-O-Z, mais on dit Michel Corbeau.
Mm-hmm.
Vous pouvez nous dire deux mots de cet homme-là?
Alors, Michel Corbeau, c'est une grande rencontre pour moi, parce que c'est quand je suis arrivée au conservatoire, je parlais de mes études de clavecin au conservatoire supérieur à Genève, Michel Corbeau dirigeait le chœur du conservatoire. Et voilà, je suis tout de suite rentrée dans ce chœur. Et,
c'était votre choix ou on vous invitait?
Non, c'était vraiment mon choix. Je me réjouissais d'entrer pour pouvoir travailler avec Michel Corbeau. C'était un peu un mythe pour moi.
Je comprends ça.
une envie. Et j'ai découvert un homme passionné par la musique en général. Et c'est, je dirais, à cause de lui que j'ai pris des cours de chant pour pouvoir aller là où il demandait que l'on aille. C'est quelqu'un qui avait, il est décédé il y a quelques années, hein, mais qui avait une exigence énorme. Il disait, on ne chante pas à peu près juste ou on chante faux. Autant vous dire qu'il demandait que l'on chante juste. Et encore à l'heure actuelle, quand je suis chef de chant et que je dirige des chanteurs, j'ai plein de réminiscences comme ça, des choses que j'ai apprises avec Michel.
Vous avez dit un mot, chef de chant, je pense que c'est un chef de chant.
Un chef de chant, c'est un claveciniste qui fait travailler des chanteurs et qui les guide dans la manière de...
Avant qu'ils rencontrent un chœur peut-être, ou un chef d'orchestre ensuite qui réunit tous les ingrédients, on va dire, pour la prestation finale.
Oui.
Alors, on peut écouter peut-être quelque chose qui est dirigé par Michel Corbeau, et peut-être que vous avez chanté dans cette œuvre-là.
Oui.
Comment ça s'appelle déjà?
Le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. C'est la première pièce que j'ai faite avec lui. Alors, ce n'est pas l'enregistrement qu'on va écouter là, c'est un vieil enregistrement.
Un vieil enregistrement du siècle dernier, on y revient. Voici le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, direction Michel Corbeau, ensemble vocal de Lausanne. Alors ça s'écrit Magnificat, mais il y a un T à la fin et on le prononce Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Qu'est-ce que c'est un Magnificat?
C'est une ode à la Vierge.
C'est pour magnifier, hein,
voilà,
quelque part quand même, hein, une grande œuvre pour magnifier la Vierge. À l'époque de Bach, c'était assez fréquent que des compositeurs se livrent à l'exercice. Et ça a été écrit, celui-ci en tout cas, pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie. C'est un chœur à 5 voix qu'on entend, avec 5 solistes. Et un orchestre. Donc il y a un clavecin dans l'orchestre?
Dans les pièces religieuses, en général, c'est plutôt un orgue qu'un clavecin.
Ah, et il s'agit ici de l'une des rares pièces musicales de Bach sur un texte en latin. Très souvent, c'est sa langue à lui et la langue des gens qui étaient autour de lui, c'était l'allemand. Florence, le morceau suivant que vous allez nous faire entendre, il fait référence à Mozart, un autre grand compositeur. Et c'est le menuet du confinement. Alors quand on m'a proposé ce titre, j'ai dit, attendez, le confinement, celui en tout cas que je connais, celui que j'ai vécu, c'était il y a quelques années, Et j'ai bien essayé de croiser Mozart, mais j'ai pas réussi. Alors comment ça se fait qu'on a quelque chose qui s'appelle le menu du confinement?
Alors, c'est le titre.
avec une allusion à Mozart.
Alors c'est le titre que je lui ai donné. Au moment du confinement, chacun était un petit peu chez soi en train d'essayer de faire de la musique. Et moi je me suis intéressée à Mozart qui a en fait inventé un système où pour pouvoir composer une musique, il propose des modules, on va dire comme des cartes. Vous faites un tirage et des modules qui s'associent. Et donc, en fait, vous faites votre tirage avec des dés, ils proposent de faire vraiment un jeu, et puis vous mettez vos cartes l'une à côté des autres, et ça vous fait un menuet qui n'existe pas avant, qui n'est pas vraiment du Mozart, mais qui est quelque chose que vous avez composé.
Si je comprends bien, c'est des petits morceaux,
oui.
Qui s'appellent le morceau numéro 4, numéro 2, numéro 3, 12, j'en sais rien, avec un dé ou avec deux dés pour avoir 12, on jette les dés, et selon que si c'est 6, on prend le morceau, la partie numéro 6, puis 4, puis 3, puis 5, et au total, ça fait quelque chose qui se renouvelle à chaque fois, finalement.
Exactement, donc j'avais proposé aux élèves de travailler là-dessus. En fait,
et on trouve ça sur le site pédagogique, c'est ça?
Oui.
Dont je parlais tout à l'heure, je peux passer des clavecins. Exactement.
Oui. Hein.
On écoute un peu? Alors voici le menuet du confinement de Mozart Monzini, tiens. Sûrement pas renier ça, très franchement. Donc vous avez vraiment effectué la même démarche, hein, c'est ça?
Oui, c'est enregistré pendant le confinement sur mon clavecin chez moi.
Est-ce qu'Aurélien Delage, il peut faire aussi une démarche similaire sûrement?
Ah oui.
Oui, ça se fait beaucoup entre clavecinistes, ce genre de choses. Et vous échangez des créations, des compositions, à but pédagogique ou pas?
Oui, on se rencontre assez régulièrement, on essaie de ne pas être tout seul dans son coin, oui.
Ah ouais. Aurélien Delage, qui c'est ça?
Ah, Aurélien Delage, c'est un charentais, claveciniste, flûtiste, organiste et un ami.
Tout ça mélangé fait que vous avez des liens à travers la musique et au-delà. Donc,
voilà, il a été élève au conservatoire avant que je n'y arrive.
Et puis, le conservatoire Grand Angoulême?
Oui, au Grand Angoulême, et il est professeur maintenant à Limoges.
Ah, c'est pas très loin.
Non.
Et puis je crois qu'il revient de temps en temps dans sa Charente pour proposer un festival vers Pranzac ou quelque chose comme ça, c'est
à Saint-Amand-de-Boixe.
Ah non, je me suis trompé, c'est un autre. Ah, à Saint-Amand-de-Boixe.
Il y a plein de musiciens en Charente.
J'ai bien connu
génial.
Pour y avoir dirigé une chorale, créé une chorale. Alors on va l'entendre. Dans quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez?
On va l'entendre sur un clavecin français dans une ouverture de Jean-Henri d'Anglebert, qui est une transcription de Proserpine de Jean-Baptiste Lully.
Alors, Proserpine Lully, donc compositeur à l'époque de la musique ancienne.
De Louis XIV.
Proserpine, c'est une tragédie en musique qu'il a composée sur un livret d'un Philippe Quinault. L'action se situe peu après la victoire de Jupiter sur les géants, et le livret de cette tragédie lyrique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en 5 actes, se concentre sur la figure de Cérès, la mère de Proserpine, qui est dévastée par l'enlèvement de sa fille. Et c'est Pluton qui a enlevé sa fille, le dieu des enfers, parce qu'il voulait l'épouser. Et puis le contexte de la création, c'est une coïncidence ou pas. Parce que ça me rappelle, moi, l'annonce du mariage entre Marianne de Bavière et le grand dauphin, le fils de Louis XIV. Parce que, finalement, elle allait être forcée, cette pauvre Marianne, d'obliger quelqu'un, d'épouser quelqu'un qu'elle n'avait pas choisi et qu'elle ne connaissait peut-être pas. En tout cas, on est bien loin de ces deux histoires-là, parce que ce qui nous intéresse, nous, d'abord, c'est le savoir-faire de Aurélien Delage. Thank you. Florence Monzani, aujourd'hui, dans Donner Nouveau Note, RDC 93.4 et 92.5 pour la région de Saintes. Et Florence Monzani vient de nous dire que les instrumentistes, en tout cas ceux de la musique ancienne, mais les instrumentistes et les musiciens en général, ils aiment bien faire des choses ensemble, soit à distance, soit dans la proximité. Et il y a des associations qui regroupent les profs, les clavecinistes, les profs de musique ancienne, je ne sais pas, dites-nous.
Alors, il y a une super association qui s'appelle Clavecin en France, qu'on a créée il y a 20 ans, on vient de fêter nos 20 ans. Et Clavecin en France, c'est une association qui rassemble des gens qui s'intéressent au clavecin, des professionnels, des amateurs. Et Aurélien Delage en a été président pendant quelques années. Et c'est lui qui avait lancé l'idée de faire construire la réplique d'un instrument qui est la copie du clavecin français le plus ancien conservé à l'heure actuelle, qui se trouve au musée d'Issoudun. Et ce clavecin original n'est pas jouable, difficilement restaurable, et ce serait l'abîmer que d'essayer de le restaurer.
Pas jouable parce qu'il est abîmé.
Voilà, parce qu'il est abîmé et qu'on préfère le garder en l'état et en faire une copie, une réplique. Donc Clavecin en France a décidé de lancer une grande opération il y a maintenant 4 ans, 5 ans, pour faire construire la copie de cet instrument. Donc ça y est, l'instrument existe et il est destiné à faire le tour de France. Donc il se promène en ce moment dans tous les conservatoires, il sera à Angoulême à la fin de l'année scolaire, et on se réjouit d'accueillir.
Mais il va aller aussi peut-être dans les conservatoires de la région, parce que RDC émet dans plusieurs départements, donc la Haute-Vienne, la Vienne...
Donc il va partir à Poitiers, il sera à Poitiers avant, il est parti de Limoges, il est à Tours, à Angers, Poitiers, et il vient à Angoulême. C'est un instrument copie de 1648, donc on est à l'époque du jeune Louis XIV.
Ouais, rendez-vous compte, on va voir le son.
Oui.
On n'a pas d'enregistrement d'époque, mais dans ce qu'on vient d'entendre, moi j'ai entendu un clavecin différent de ce que vous avez fait entendre tout à l'heure, et du original et du virginal, et évidemment. Chaque clavecin a son ou il y a une uniformisation d'un clavecin à l'autre?
Alors chaque instrument a son. D'abord, ça dépend de la façon dont il est fabriqué, les écoles différentes. Un clavecin italien n'a pas la même forme, pas la même facture qu'un clavecin français. Donc il sera forcément différent, et puis après chaque facteur ou factrice met sa patte.
Eh bien, mettre sa patte, tiens, moi je vais mettre ma patte dans l'émission du jour, parce que vous savez, Florence, c'est une émission Donnez-nous vos notes, dans laquelle on joue.
Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Et aujourd'hui, comme tous les mois, le jeu est pour toutes les auditrices et pour tous les auditeurs. Il s'agit de répondre au plus vite à la question que je vais poser dans quelques instants. Pour gagner, dès la question posée, eh bien, il suffit de donner la réponse à Jean-Marc qui attend vos appels au standard de RDC. Je donne le numéro, c'est le 05 45 95 09 87. 05 45 95 09 87. Voici la question du jour. Florence Monzani est musicienne. Quel est son instrument de prédilection? Celle qu'elle connaît depuis qu'elle est née? Celle qu'elle enseigne? Non, celui qu'elle connaît depuis qu'elle est née, pardon. Je recommence. Allez, je gomme, on n'a rien entendu. Jean-Marc, efface, on recommence. Florence Monzani est musicienne. Quel est son instrument de prédilection? Celui qu'elle connaît depuis qu'elle est née, celui qu'elle enseigne au Conservatoire de Grand Angoulême. Attention, top départ, c'est parti pour les appels. Et c'est le 05 45 95 09 87. Auditrice, auditeur, précipitez-vous parce que seule la première bonne réponse est la gagnante. Et qu'est-ce qu'on gagne? Un CD ou un DVD et une invitation à assister à une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Je rappelle la question. Quel est l'instrument dont Florence Monzani joue? Celui qu'elle enseigne, celui dont elle nous parle en priorité depuis le début de cette émission. Florence, on continue notre voyage.
Avec plaisir.
Vous continuez à nous offrir vos notes et le plaisir est aussi pour nous. Soyez-en sûrs. L'épisode suivant dans l'émission s'appelle Musique baroque. Alors c'est pareil, c'est une époque de la musique, ça?
Oui, c'est une époque en gros entre le 17e et la moitié du 18e.
Alors qu'est-ce qu'on va entendre, en tout cas comme premier extrait de cette histoire, de ce moment-là?
On va entendre encore du Jean-Sébastien Bach. Et on va entendre de la viole de gambe et du clavecin.
Alors, de la viole, le clavecin, bon, c'est votre instrument, vous nous en avez parlé, et c'est bien, même si on ne connaît pas tout, hein, loin de là, mais la viole de gambe, qu'est-ce que c'est ?
La viole de gambe, c'est un instrument qui, comme son nom l'indique, se tient entre les jambes.
Gambe, d'accord.
Voilà.
Les gambettes.
qui a 6, voire 7 cordes, et qui ressemble peut-être à un violoncelle, mais en fait, l'archet se tient un petit peu différemment, c'est encore un instrument de la musique.
Et puis là, le haut de l'instrument, la forme, les épaules, comme on dit peut-être,
oui.
Elles sont différentes entre le violoncelle et la viole. Ils sont cousins quand même.
Oui, ils sont cousins. La viole de gambe, c'est une grande famille, en fait. Il y a différents types de viole de différentes tailles, ce qui permet, quand on est petit, de démarrer avec un dessus de viole tout petit. Ce qui fut le cas d'Agnès Boissonneau-Guilbeault qu'on va entendre ensuite. Agnès est une élève du conservatoire.
Elle l'est plus peut-être.
Ah non, elle l'est plus, elle est devenue professionnelle. Mais moi, j'ai vu quand elle était toute petite, elle habite à Paris maintenant, mais ses parents sont toujours là. Et voilà, donc j'avais envie de mettre un petit peu en valeur les gens qui sont du coin.
Bah évidemment, quelle belle perspective, merci beaucoup. Et c'est aussi mon intention. Auditrice, auditeur, je vais vous dire que c'est aussi pour ça que Florence est avec nous ce matin. Hein. Mais si Agnès nous entend, et si vous pouvez lui transmettre une invitation, c'est avec plaisir, sait-on jamais, que je la recevrai. C'est une suite française, c'est ça ?
Oui.
Qu'on va entendre, un extrait en tout cas, de Jean-Sébastien Bach. Une suite, qu'est-ce que c'est ce mot suite ?
Alors c'est tout simplement, à l'époque baroque, une suite, c'est un ensemble de danse. Une suite de danse.
Une suite.
Et donc là, on va entendre une sarabande, qui est la danse lente et ornée. De la suite.
Il y a des sarabandes célèbres. Est-ce que celle-ci en fait partie ? On va le savoir tout de suite. Toujours à l'époque baroque, on va parler de quelqu'un, allez je le dis tout de suite, une chanteuse que j'aime beaucoup, et c'est un point commun entre nous Florence, parce que nous sommes tous les deux fans de Léa Desandré. On va ici l'entendre avec l'ensemble Jupiter, dans quoi, dans quelle œuvre ?
Dans une œuvre de Vivaldi.
Qui s'appelle ?
Judith à Triomphance.
Ouais, le triomphe de Judith, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un oratorio, je crois, d'Antonio Vivaldi, le seul oratorio à nous être parvenu parmi les 4 qu'il a composé. En tout cas, on sait qu'il en a composé au moins 4. Il a été commandé par les autorités de la République de Venise et composé pour représenter et célébrer la victoire du chef des armées vénitiennes sur les Turcs à Corfou en 1716. On peut dire que cet extrait est considéré aujourd'hui comme l'hymne vénitien. C'est pour célébrer une victoire sur des ennemis qui avaient commencé à assiéger la ville. Voici donc le triomphe de Judith.
Accecurelio sguallido, furori soci e barbari, furie, venite a nos. Urmati face, tocco e musa, accecurelio sguallido. Armate face torquibus, furore soci barbari, furie, armate.
C'est beau, voilà. Je l'ai dit, j'ai osé le dire. À l'écoute de cet extrait, on ressent, en tout cas je ressens, il me semble, comme une allusion à différents styles, différents genres, même si c'est daté, hein, c'est clair. Mais il y a des ouvertures vers ce qui va devenir après. Oui, Florence ?
Oui,
vous êtes d'accord ? Je crois que Léa Desandré, d'ailleurs, n'hésite pas à aller vers ce qu'elle appelle autre chose que des airs de musique dites classiques, et elle déclare souvent « Je veux élargir mon interprétation et mon répertoire ». Ainsi, elle offre une magnifique interprétation d'une chanson de Barbara, « Dis, quand reviendras-tu ?» Et je crois qu'elle est accompagnée par un luthiste et un théorbiste.
Oui.
Qui s'appelle Thomas Dunford, on dit comme ça, je pense, Dunford, je ne sais pas. Et je crois bien que c'est son chéri, finalement.
Oui.
Ah là là, jouer ensemble, c'est bien. Allusion, c'est, allusion aussi à d'autres qui interprètent cette chanson-là. Je parle du duo Juste, un duo charentais, et du duo SCS, un duo de la région Grande-Aquitaine, qui vient, Nouvelle-Aquitaine, qui vient juste d'être créé et qui interprète aussi « Dis, quand reviendras-tu ?» Pour revenir à Léa Desandré, et à sa volonté de diversité dans ses interprétations, elle a aussi, je veux le rappeler, interprété, et de quelle manière, la Marseillaise lors des commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Vous voyez, c'est quelque part le grand saut entre ce qu'on vient entendre et puis la Marseillaise. Et puis on peut l'entendre dans du Mozart ou du Handel, toujours avec le même bonheur. Je parle pour moi, mais pour nombre d'autres aussi, et le vôtre, Florence, sans doute.
Oui.
Merci à William Christie, chef d'orchestre des Arts Florissants, d'avoir largement contribué à l'éclosion du talent de Léa Desandré. Et puis, il paraît que c'est chez ce William Christie qu'elle aurait rencontré son crush, son Thomas, alors qu'ils étaient tous les deux invités au festival que le chef d'orchestre organise chaque année dans sa propriété vendéenne. Je jauge une suggestion, si vous voulez réécouter, auditrice, auditeur, Léa Desandré, alors dis qu'on viendras-tu, certes, mais aussi Vedrò con mio diletto de Vivaldi, toujours avec l'ensemble Jupiter, dirigé par Thomas Dunford. Léa a aussi collaboré avec Thibaut Covin, le guitariste qui se produit actuellement aux côtés d'un autre chanteur et guitariste, M. Thibaut appartient plutôt à la catégorie des musiciens classiques, M à celle des chanteurs de variété. Bon, je crois que c'est une nouvelle preuve, s'il en était besoin, que la musique ne connaît pas de frontières, pas de limites. Vous êtes d'accord, Florence ?
Oh oui. On parle beaucoup de clavecin ce matin, mais à titre personnel, j'ai fait aussi beaucoup de choses autres, des musiques actuelles. Enfin voilà, ça fait partie aussi de ma vie.
Et ça peut être aussi fait avec du clavecin, la musique.
Mais oui, oui, oui.
On verra peut-être tout à l'heure des ouvertures à la musique d'une autre époque que celle où le clavecin était, je vais dire, à l'honneur particulièrement. Et puis quand on entend Léa Desandré, on a des mots qui viennent, et voici le mot d'un auditeur: une voix magnifique, un style envoûtant, une justesse exceptionnelle, une diction parfaite. Je suis tombé sous le charme de cette très grande dame. Une autre auditrice dit: bravo Léa, le talent n'attend pas et il vous a rattrapé. Florence, vous qui connaissez le rôle de chanteuse et celui d'instrumentiste, êtes-vous d'accord avec Léa Desandré quand elle affirme que si on se pense chanteur et non pas instrumentiste, on perd quelque chose?
On est musicien pour moi.
Ah,
je déteste le mot les chanteurs ou les instrumentistes, on est musicien.
La voix est-elle finalement comme un instrument, ou la voix est-elle un instrument finalement?
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut écouter un ensemble instrumental, un autre que Jupiter avec Léa qu'on vient d'entendre? C'est la ritirata, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que c'est cet instrument-là? Vous nous en parlez, cet ensemble et ces instruments, vous nous en parlez?
On va l'entendre dans une pièce de Andrea Falconieri, qui est une chaconne.
Une chaconne, qu'est-ce que c'est ça?
Alors une chaconne, c'est un principe de quatre notes qui s'enchaînent et qui se répètent. Et à partir de là, le compositeur invente des variations.
Alors ça me fait penser quelque part au principe du menuet que vous avez parlé tout à l'heure, où on prend des extraits, on les réorganise. C'est une forme de réorganisation aussi?
Oui, c'est une forme d'improvisation, je dirais plutôt. Mmh. Ou d'improvisation écrite, dans le cas du compositeur.
Ah, un claveciniste ou une claveciniste est-il aussi improvisateur?
Ah oui, forcément, en musique ancienne, on improvise tout le temps.
C'est-à-dire qu'on peut jouer des choses qui ne sont pas écrites?
Oui,
alors,
on rajoute des ornements, des diminutions.
On rajoute?
Oui, ah. Oui, on rajoute. Mais comme un jazzman, en fait, on a
voilà,
beaucoup...
Et c'est intéressant de dire ça. En fait, le jazz, c'est une réinvention, je vais dire, de choses qui existent avant.
Oui.
Et c'est pas péjoratif du tout quand je dis ça, mais c'est le cycle de l'histoire. L'histoire est un éternel recommencement en musique, comme dans d'autres domaines. Là, on va entendre des flûtes, on va entendre un violon baroque, une guitare baroque, un théorbe, un clavecin, des percussions, un violoncelle baroque. Alors, violon, je sais ce que c'est, mais violon baroque?
Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, qu'en général, on dit un Stradivarius,
oui,
pour un violon. Voilà, donc un Stradivarius, tel que le joue Renaud Capuçon, par exemple, à l'heure actuelle.
Qui a été
c'est
fait
en fait...
par...
Voilà, il a été fait en Italie au XVIIe ou XVIIIe siècle, ces instruments-là. Et donc, ce sont en fait des instruments baroques qui, à l'époque, étaient montés avec des cordes en boyau. Mmh. Et non pas des cordes en métal. Et puis il y a des petites particularités de ces instruments. Comme c'était des instruments géniaux, en fait on les a fait évoluer et donc on les utilise encore à l'heure actuelle en instruments modernes. Mais un violon baroque, un violoncelle baroque, ce sont des instruments qui ont un archet particulier aussi et des cordes en boyau.
Donc au final, le son est différent de, oui, ce qu'on entend maintenant. Même chose pour la guitare baroque.
Oui, pareil, un son moins puissant.
Ouais, le théorbe.
Le théorbe, c'est comme un luth, donc c'est comme une guitare, mais plus grand, avec des cordes plus graves.
Mais avec beaucoup, beaucoup de cordes, dont certaines qui sonnent en sympathie. Parce que quand on joue sur une corde, ça fait résonner une autre corde, en fait,
fait.
Si je fais un raccourci. Et puis le clavecin, grâce à vous, Florence, on sait parfaitement ce que c'est, ou presque maintenant. Un auditeur du morceau qu'on va entendre, il a écrit « Quel plaisir !» Et comme il a eu raison, je pense que ce qu'on a entendu, ce qu'on va entendre, c'est gai, c'est joyeux, c'est festif. Allez, je vais oser ajouter que c'est jouissif, carrément. Bien tous les instruments que je citais, des flûtes, non pas une flûte en général, parce qu'un flûtiste, il joue, ou une flûtiste, bonjour Aurélie, du groupe d'ensemble des éphémères, il joue pas de la flûte, il joue des flûtes finalement.
Oui, parce que suivant la hauteur de la partie qu'on joue, on peut avoir des flûtes de différentes tailles.
Et donc plus ou moins graves.
Plus ou moins grandes, qui sont classées comme les voix, la soprano, l'alto.
Longtemps, on a aussi des percussions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un batteur ?
Alors non, il n'y a pas une batterie au sens jazzman du terme. Ce sont des petites percussions, comme des petits tambourins, des choses... Voilà, c'est très, très varié, l'instrumentarium de la musique ancienne.
Et puis, un autre auditeur, il a commenté, c'est en anglais, « I wish I could dance to that ». J'aurais pu danser en entendant ceci. Oui, parce que c'est très dansant, quand même. Hein.
Mais la musique ancienne, c'est beaucoup, beaucoup de danse. Comme c'était à l'époque, ça faisait partie de leur vie, donc ça faisait partie de la musique.
Mmh. Et cela ouvre à la vocation d'un rapprochement, vous venez de le faire, entre musique et danse, dans la vie de tous les jours il y a quelques temps, peut-être encore d'autres formes de musique et de danse. Mais Florence, qu'est-ce que vous pensez ou savez de ce rapprochement? Et puis comment selon vous, et c'est surtout ça qui va nous intéresser sans doute, comment selon vous, selon vos souhaits, on peut établir un rapprochement entre la musique ancienne, la danse, comment ça se passe? Ça vous arrive fréquemment dans des spectacles, dans des prestations?
Déjà dans notre formation, d'apprendre ce que c'est qu'un menuet, parce que ça a l'air idiot, mais on ne le danse pas tous les jours à l'arrêt de bus, et puis de pouvoir le transmettre aux élèves et à ceux qui sont...
Alors qu'est-ce que c'est qu'un menuet?
Un menuet, alors pour moi, il y a... Déjà, dans la musique ancienne, deux types de danses. Il y a toutes les danses de la Renaissance qui sont très, très axées sur la musique trad. C'est ça. Et donc, les branles, les pavanes, des choses comme ça, assez faciles à danser.
Donc, c'est la traduction orale, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais il y a des traités d'époque qui existent. Et il y a aussi, à l'âge d'après, au XVIIIe siècle, toute la notation feuillet, qui en fait permet de chorégraphier toutes les danses de la période baroque.
Ah oui, les pas sont donc écrits, vraiment.
Les pas sont écrits,
précisément.
Ouais.
Et mon petit doigt m'a dit que dans les salons d'hôtel de ville en Angoulême, il y a eu quelque chose, non?
Alors l'année dernière, on a eu un énorme projet autour de la musique renaissance qui s'est constitué avec un bal au château de Fléac et à l'hôtel de ville, oui. Mmh. C'était un projet avec les écoles primaires.
Et donc, il y avait des instrumentistes.
Et donc, il y avait nos élèves du conservatoire et puis les élèves des écoles primaires qui dansaient. On a travaillé avec un maître à danser pendant toute l'année pour apprendre ces danses-là.
Il avait un bâton pour frapper la cadence.
Non.
Comme une allusion à Lully, bien
allusion
sûr.
Allusion à Lully, non, voilà. Il n'y en avait pas.
On change de sujet, mais on change d'ensemble, en tout cas. Voici les Capsper Girls, c'est ça?
Oui, les Capsper Girls, qui est en fait une petite hommage à Capsberger, qui est un compositeur luthiste, théorbiste.
Et, de quel pays?
Allemagne.
Ouais. Avec son nom, on peut penser effectivement, hein, c'est un Allemand. Ouais. Alors, pardon, je vous ai interrompu. Qu'est-ce qu'on va entendre? Qui c'est Kapsper Girls?
Donc, c'est un ensemble avec des chanteuses, avec un luth, et on va entendre un air de cour. L'air de cour, c'était quelque chose de très en vogue au XVIIe siècle.
Donc, la cour, c'est la cour royale, par exemple?
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y avait des cahiers qui étaient publiés par un dénommé Ballard, qui tous les ans publiait le recueil de l'année. Et donc ces airs de cour, ils sont très beaux. Moi, je trouve que la version que je vous propose d'écouter, c'est une version assez moderne dans sa façon de voir les choses.
Alors, Ballard, il faisait des annales, les annales Ballard.
C'est exactement
les,
ça.
Les annales Buber, il y a pour le bac révisé, par exemple, et puis les annales Ballard, c'est pour la musique. Voici donc, comment ça s'appelle?
J'avais cru qu'en vous aimant.
Oh, quel beau titre, maintenant.
J'avais cru qu'en vous aimant, la douceur serait extrême. J'aurais cru qu'en vous aimant, mon sort eût été charmant. J'avais cru qu'en vous aimant, la douceur serait extrême. J'aurais cru
Je crois que cet ensemble, les Kapsper Girls, ils cherchent l'ensemble une nouvelle clé de lecture ou d'interprétation des sources historiques, c'est ça?
Oui, en tout cas, là ils ont choisi de prononcer le français de façon moderne pour qu'on le comprenne mieux. J'avouais cru qu'en vous aimant, la douceur serait extrême, voilà comme on pourrait le dire
ça,
à l'époque.
On pense que c'est comme ça, oui, qu'on parlait
oui,
il y a quelques
temps. Oui, on pense que ça peut être comme ça. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que là on a entendu, en fait, c'est une mélodie très simple, avec un texte que je trouve encore très actuel, une mélodie très simple et à la reprise, quand elle a
le texte, chanté, si vous pouvez nous l'actualiser, c'est possible.
J'avais cru qu'en vous aimant, la douceur serait extrême. Et voilà.
C'est moi que vous parlez, pardon.
Oui.
Excusez-moi, Florent.
C'est le moment slow de la matinée.
Et c'est le slow américain.
Exactement. Et donc, elle a rajouté plein d'ornementations. Comme je disais tout à l'heure, on le fait très fréquemment dans la musique ancienne.
Ouais. Donc, elles puisent leur inspiration dans divers répertoires. Un
oui.
caractère traditionnel, et puis elles veulent jeter un regard que je vais qualifier de transversal sur les œuvres du XVIIe siècle et du XVIIIe. Elles cherchent et trouvent de nouvelles passerelles pour jouer en s'amusant avec les gens. Moi, je trouve que c'est très énergique, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. La coloration des tons est là, et puis l'envie de chercher du neuf dans l'ancien, du faire du neuf avec de l'ancien. Elles ont enregistré plusieurs disques, et leur deuxième a été maintes fois récompensé. 5 étoiles de Classical, 5 diapasons chez Gramophone aussi, et puis le Figaro a flatté le résultat et vanté le résultat, et bien, le public les suit quand elles se produisent. C'était donc un extrait de cet album, de leur deuxième, que vous nous avez proposé, Florence Monzani, aujourd'hui dans Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 92.5. Nous voilà à l'époque moderne, c'est-à-dire plutôt à l'usage moderne du clavecin. C'est comme ça que vous avez intitulé l'épisode suivant de notre rencontre de ce matin. Pourquoi ce mot moderne ?
J'avais envie qu'on tourne autour du clavecin parce que c'est quand même une grande partie de ma vie musicale, mais j'avais envie de montrer que le clavecin, c'est pas un instrument qui dort dans les placards et que c'est un instrument qu'on peut s'approprier pour faire même du répertoire qui n'a pas été composé pour lui à la base. Donc c'était ça l'idée.
Et donc c'est à la gloire du clavecin.
Oui.
Le clavecin forever.
Oui.
Alors j'ai bien compris, hein, c'est la famille, mais l'envie de transmission, c'est pour vos élèves ou pour les gens que vous rencontrez, c'est en faire des clavecinistes, en faire des mélomanes, c'est...
En faire des gens qui seront ouverts et curieux. Leur donner une ouverture, une culture à plein de choses. Et voilà.
Et vos élèves sont des enfants, sont des adultes,
essentiellement des enfants, et des enfants et des ados, mais après, voilà, j'ai aussi quelques adultes.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et au Conservatoire de Grand Angoulême, il y a un département, comme on dit, de musique ancienne?
Oui, il y a un département qui existe depuis les années 80. Donc c'est vraiment dans les premiers départements de musique ancienne qui ont été créés dans les conservatoires. Clavecin, flûte à bec, viol de gambe, et puis une ouverture sur le chant, le traverso, le hautbois baroque. Après, ça dépend un petit peu des...
Et les profs, les enseignants travaillent ensemble?
Oui.
Ou c'est chacun de son côté?
Ah non, c'est... c'est vraiment, on est une force parce qu'on est nombreux, nombreuses maintenant, des filles, et que ça fonctionne. Ouais. J'ai une super équipe avec moi.
Ouais. Et les enseignants des autres domaines, c'est vraiment cloisonné les départements, piano
Non, ça c'est parce qu'il faut bien donner des noms à différentes choses, mais tout le monde travaille.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un élève, il soit élève de musique ancienne et aussi de trompette ou je sais pas.
Oui, j'ai un corniste, j'ai un trompettiste dans mes élèves.
Donc il y a des gens qui veulent vraiment s'attaquer à plusieurs domaines.
Oui.
Dans l'époque, le clavecin moderne, donc le clavecin d'aujourd'hui, vous avez choisi de nous faire entendre des réécritures, des transcriptions, je vais dire, c'est ça ?
Oui.
Et la première, c'est quoi ?
Alors, c'est Camille Saint-Saëns, La danse macabre, qui n'est pas du tout écrite pour le clavecin à la base et qui a été arrangée par les deux interprètes qu'on va entendre pour un clavecin à quatre mains. Mais je trouve que ça sonne vraiment très bien pour l'instrument.
Et arrangée, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que vous prenez la partition d'origine et puis vous trouvez comment vous la faites sonner sur l'instrument que vous avez choisi.
Et ça, l'arrangeur, c'est un travail arrangé, c'est un travail individuel, c'est un collectif, c'est comment ça se pose ?
Là, je pense qu'elles l'ont fait à deux, avec leur connaissance de l'instrument, et c'est ça qui fait la force, c'est que ce sont vraiment les instrumentistes qui trouvent comment faire parler le clavecin au mieux pour trouver le répertoire.
Donc c'est une version à quatre mains, c'est ça que
oui.
Vous dites ? C'est fréquent le clavecin à quatre mains ?
C'est pas hyper fréquent, mais ça arrive.
Et en tout cas, le clin d'œil peut permettre d'innover. Je suis sûr, auditrice, auditeur, que vous allez reconnaître cette œuvre aux premières notes. Qu'est-ce qui vous plaît, Florence, dans ce qu'on vient d'entendre, vous ? Pourquoi vous aimez ?
Parce que je trouve ça drôle, gay, un peu décalé pour moi, mais ça marche.
Décalé par rapport à l'original,
vous voulez dire ? Oui, décalé par rapport à l'original et peut-être décalé aussi par rapport au répertoire habituel du clavecin, mais quand ça fonctionne, il ne faut pas s'en priver.
Comment vous pourriez qualifier ce qu'on vient d'entendre, l'interprétation qu'on vient d'entendre ? C'est rapide, je sais pas.
Oui, articulé, ça marche avec la façon de jouer le clavecin, ça met en valeur l'instrument et ça met en valeur aussi.
Le doigt attaque le clavier.
Oui, le frappe. Doigt attaque la touche et puis.
D'accord, et puis d'un doigt à l'autre, on peut varier la pression,
oui.
Je crois.
Non, on ne peut pas varier la pression.
Pas sur le clavecin, mais sur certains instruments de clavier.
Mm-hmm. Ouais. Mais pas sur le clavecin. Non.
Ouais. Donc, et on a les moyens quand même de donner une variété de timbres et de sons dont vous parliez.
Oui, justement, si on lit les notes les unes aux autres ou si on les sépare, en fait.
Et peut-être, je vais me parler un petit peu de ça, peut-être vous pourriez nous montrer les différentes façons de jouer, d'attaquer, d'articuler. Pendant ce temps, je vais raconter l'histoire de la danse macabre. Et on l'a entendu dès le début, minuit sonne, on a les 12 coups de minuit, Satan va conduire le bar. Satan va conduire au bar et va conduire le bal. La mort paraît, elle accorde son violon, son clavecin pour le coup, et la ronde commence presque furtivement au début. Elle s'anime, elle semble s'apaiser, et repart avec une rage accrue qui ne cessera qu'au chant du coq. Tout se dissout dans le lever du jour. La danse macabre, c'est un poème symphonique composé par Camille Saint-Saëns d'après un texte de Henri Casalis qui s'appelle « Égalité, fraternité » tiré des heures sombres, quatrième partie du recueil L'illusion. Alors Florence, on parlait des différentes manières de jouer ou d'articuler. Vous nous dites en même temps ce que vous faites ou...
Alors si on fait par exemple tout lié en legato.
tout, excusez-moi, je vais le reprendre pour redire plus précisément, pour qu'on entende bien, tout lié, donc les gâteaux, c'est ça? Donc les notes s'enchaînent, on a une résonance d'une note à l'autre.
Piquer,
détacher. On a effectivement deux couleurs très différentes. Il y a encore d'autres manières.
Après, on peut mélanger.
Ouais. On peut avoir une main qui fait piquer, l'autre qui fait lier. C'est ce qu'on vient d'entendre. Et en général, la main droite a la mélodie.
En général.
Et la main gauche a une forme d'accompagnement. C'est ça. Merci beaucoup pour ce petit supplément imprévu, je dois le dire, et auquel vous avez et accéder, et c'est bien. La première audition de la danse macabre, c'était... elle a surpris, parce qu'il y avait l'emploi d'un instrument très récent pour l'époque, le xylophone. C'était une version pour un orchestre symphonique, et il y avait le xylophone en plus, qui était très très surprenant. Et puis, je vais oser dire que c'est... Il l'a choisi, parce que c'est le bruit des os, du squelette, évidemment. Et il a repris le thème principal de la danse macabre, ce Saint-Saëns, dans un autre de ses morceaux, de morceaux qu'il a composé, c'est le Carnaval des animaux. Et puis il a glissé quelques notes de cette danse macabre dans un passage intitulé Fossile, et avec une indication que je trouve, moi, un peu amusante, Allegro ridicolo. Je trouve ça ridicule. C'est pour peut-être lutter contre la mort, contre les mauvais présages. Et puis, il en a aussi écrit un arrangement pour deux pianos. Un autre compositeur célèbre, Franz Liszt, un ami de Saint-Saëns, il a effectué une réduction pour piano seul. Une réduction, ça veut dire qu'il a pris tout ce que joue l'orchestre et il l'a réduit pour que ça soit interprété par un piano, c'est ça?
Oui.
Et cette réduction a été ensuite réarrangée par un autre pianiste de talent, Vladimir Horowitz. D'autres transcriptions populaires ont été réalisées pour différentes formations, dont celle donc que nous venons d'entendre et qui était interprétée par qui? Par Anna Kikuchi et Anastasia Antonova, deux instrumentistes qui nous viennent des pays de l'Est, si j'en juge par
deux jeunes filles fort sympathiques et très vives.
Et vous les avez rencontrées
il y a quelques années un clavecin en France, oui.
Dans
le cadre des journées de clavecin en France qu'on organise tous les ans dans un lieu différent pour
justement. Ça tourne pour qu'il y ait un public plus large. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces journées-là? On parle que du clavecin
ou... On parle essentiellement du clavecin, oui, mais avec plein d'accessibilités différentes. Parfois un parcours pour les élèves, un parcours plus jeune, et puis des conférences par des chercheurs. Enfin, on en ressort toujours extrêmement nourri pour les mois qui suivent.
Qu'est-ce qu'on peut chercher? Vous dites qu'il y a des chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut chercher dans le domaine du clavecin ou de la musique ancienne?
Alors, par exemple, les dernières recherches qui ont eu lieu pour le clavecin qui est conservé à Issoudun, eh bien, il s'agissait de définir en fait qui était le commanditaire probable de cet instrument, puisqu'on n'avait pas de traces. Donc, Florence Gétreau, qui est chercheuse au CNRS, a travaillé depuis de nombreux mois pour en arriver à la solution qu'en fait, le clavecin avait probablement été commandé par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, au moment de la jeunesse de Louis XIV. Donc, voilà, ça, c'est un des derniers scoops qui est sorti.
On a toujours une forme d'incertitude, évidemment,
oui.
Mais on a de plus en plus de moyens peut-être de retrouver des traces ou d'études de documents, de transmissions,
d'études de documents, de scans, d'endoscopes, la Cité de la Musique, il y a tout ce qu'il faut pour aller voir comment sont faits les instruments. Donc on est en permanence en train de se poser la question de comment ils étaient faits et quelle est leur histoire.
Il faut arriver à trouver une vérité. Et pas proposer de la camelote, tiens, je prends ce mot exprès, parce que on va maintenant parler d'un personnage qui vous est cher au plan musical, au plan artistique, et que moi j'apprécie aussi beaucoup, c'est Alexandre Astier.
Ouais.
Alors, pourquoi vous avez choisi Alexandre Astier pour une émission qui parle du clavecin? C'est étonnant quand même.
Alors, parce que Alexandre Astier est un excellent musicien, il faut le savoir. Je pense que Alexandre Astier, quand il commence quelque chose, il va à fond, et en particulier pour la musique, il a une formation passions de musicien. Et je voue une admiration sans borne à Alexandre Astier. Si vous allez voir Kaamelott et la quinte juste, vous tapez ça sur les...
Alors Kaamelott, il faut dire, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est une série qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant déjà, de courts épisodes, et c'est une parodie pastiche de l'histoire de la Table Ronde avec le roi Arthur qui est joué par Alexandre et puis ses parents qui jouent, ses beaux-parents d'ailleurs dans la série. Mais vous disiez que s'il est instrumentiste, il est musicien, il est artiste, mais c'est parce qu'il est tombé dedans quand il était petit lui aussi.
Oui.
Je vous ai interrompu, pardon, mais qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce que vous appréciez? Donc, la quinte juste, qu'est-ce que c'est la quinte juste?
La quinte juste, c'est une histoire résumée de la musique médiévale.
Et très, du passage. Très résumé.
Voilà, très, très résumé. Mais en fait, ce qui est magnifique dans Astier, c'est qu'on peut le prendre à tous les niveaux. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel, vous comprenez que tout est juste, drôle, mais absolument complet et juste. Il a également fait un spectacle qui s'appelle « Que ma joie demeure » sur Jean-Sébastien Bach. Et là aussi, c'est pareil. C'est toujours extrêmement documenté.
Alors, il y a un extrait qui, moi, me fait éclater de rire à chaque fois que je le vois et que je l'entends. C'est quand il voit au fond d'un plat ou d'une assiette des miettes de pain qui sont un peu organisées bizarrement. Et finalement, il s'en sert comme si c'était des notes sur une portée pour écrire quelque chose. Il garde pas, il déplace une miette de pain ou l'autre. Et donc la quinte juste, c'est à la gloire des intervalles, qu'on appelait les intervalles justes, la quarte et la quinte. Et puis le reste, c'était les intervalles interdits par l'Église à l'époque, c'est ça. Et il y a une grande opposition entre les propositions que fait Bohort, je crois, un des chevaliers.
Qui veut faire évoluer la musique vers la musique de la Renaissance, où on aimait les tierces, alors qu'au Moyen-Âge, on ne voulait pas des tierces.
Et voilà, pourquoi, on ne sait pas.
Oh, c'est une question de vibration, en fait,
Comment les notes sonnent les unes avec les autres. Il y en a qui étaient permises ou pas. Et pourtant, une quarte, une quinte, je ne suis pas sûr que des oreilles actuelles apprécient beaucoup la tierce plus que la quarte et la quinte, puisque nous, on est habitués à divers intervalles depuis des années, finalement.
Oui,
ouais. On est tombé dans une autre forme de musique, finalement. Le spectacle, c'est... vous avez dit « Que ma joie demeure ». Pourquoi ça s'appelle comme ça,
C'est le titre d'une cantate de Jean-Sébastien Bach, « Que ma joie demeure, Jésus, que ma joie demeure ».
Ah, même que c'est ça, « Que notre joie demeure ». Avec Stéphane sur RDC pour « Donnez-nous vos notes ». Alexandre Astier, c'est Florence Monzani qui nous en parle aujourd'hui dans Donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 et 92.5. Le prélude en Do majeur, c'est de ça qu'on va parler plus précisément maintenant. Il est issu du clavier bien tempéré.
Oui.
On a déjà fait une allusion à ça tout à l'heure, je crois. Et ça a été écrit par Jean-Sébastien Bach. C'est un recueil, donc, de différentes œuvres, c'est ça?
C'est un recueil de 24 préludes et fugues qui sont dans toutes les tonalités. Do majeur, Do mineur, Do dièse majeur, Do dièse mineur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique ancienne, on n'accorde pas forcément l'instrument comme un piano moderne. C'est-à-dire que tous les intervalles n'ont pas exactement la même taille. Et donc, quand on va jouer dans différentes tonalités, on va avoir des sons un petit peu différents. Je vais peut-être passer sur le clavecin, vous montrer rapidement ce que c'est.
Oui.
En fait, il y a des intervalles qui sonnent bien. Et puis, il y a des intervalles qui vont mal sonner.
Des intervalles qui sonnent bien, les premiers, qui sonnent moins bien, les seconds.
Ça, c'est un peu dur à l'oreille.
Oui. Et avec ça, donc, avec le clavecin bien tempéré, on lutte contre ça?
Alors, c'est un peu l'idée de savoir comment on accorde l'instrument pour pouvoir jouer de manière égale dans les différentes tonalités possibles.
Donc, il y a l'idée de transmission et de formation aussi, former l'oreille à partir de ce qu'on veut
et obtenir. Inventer une façon d'accorder qui permette d'avoir toutes les tonalités possibles.
Alors, le prélude en Do majeur, c'est quelque chose de très connu, non?
Ah, c'est notre lettre à Élise à nous, les clavecinistes.
Alors, je ne sais pas si je suis en Do majeur. J'ai pas l'oreille absolue, mais voilà. Et Alexandre Astier, il s'en est servi, lui, pour en faire quelque chose. Et il fait le prélude en Do majeur. Alors, Do majeur, c'est donc une des tonalités, la gamme de Do, en 15-16. Ouf. Qu'est-ce que ça veut dire en 15-16?
Bon, en clair, d'habitude, il y a 16 doubles croches, et là, il en enlève une, ce qui donne un petit côté canard boiteux, mais rigolo.
Allez, on écoute les canards boiteux d'Alexandre Astier. Thank you. Voilà, c'était le canard boiteux vu par Alexandre Astier, la transformation du prélude en Do majeur, extrait du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Alors cette composition, elle serait peut-être passée inaperçue au fil du temps si elle n'avait pas servi d'accompagnement à une autre œuvre ô combien célèbre, c'est l'Ave Maria de Charles Gounod. Cette composition, on peut dire qu'elle a traversé les siècles et qu'elle continue d'exister, puisque beaucoup d'autres musiciens s'en sont inspirés ou l'ont réécrite, adaptée, arrangée, transcrite, que sais-je encore, des artistes contemporains de divers horizons, jazz ou autres, comme par exemple Rick Van Linden, qui l'a rebaptisé Exception ou Exception, et puis Moran, qui ne connaît pas la fameuse chanson sur un prélude de Bach. Alexandre Astier, c'est un multi-instrumentiste, et il a fait son miel de ce prélude, il l'a transformé en 15-16, et dans l'extrait qu'on a entendu, il joue de plusieurs instruments. Un clavier, d'accord, de la contrebasse, bon, ça je vois encore un peu ce que c'est, mais il y a deux autres instruments dont il joue ici, c'est le Zen Drum, et puis le ou la Ride. Alors ça, moi je sais pas. Qu'est-ce que c'est
Zen Drum? La Ride, c'est une cymbale en fait, ce qui permet de... de faire l'avancée du rythme.
Une cymbale d'un diamètre assez important, et qui est comprise dans la plupart des batteries actuelles,
dans les sets de
jazz,
de, batterie,
de,
oui,
de musique pop. C'est une cymbale à un caractère vraiment rythmique et qui sert souvent à marquer le rythme ou le tempo, comme disent certains. Le nom de la cymbale, ride d'ailleurs, provient du verbe anglais to ride, qui signifie faire avancer ou conduire. Pourquoi ? Parce que la cymbale, en fait, c'est une cymbale rythmique qui a généralement pour rôle de soutenir et de guider le tempo ou le rythme, bref, de faire avancer le morceau. Alors, ride, c'est un mot anglais, je ne peux pas m'empêcher le jeu de mots avec les Beatles de dire que la cymbale, cette cymbale, she's got a ticket to ride, donc elle a la possibilité de faire avancer toute la musique et tout l'orchestre. Et puis le Zen Drum, qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est un instrument de la famille des percussions au départ.
Oui, c'est un instrument électronique en fait.
Ouais. Et au départ, avant hein, c'est une percussion qui après a été déclinée sous forme d'instrument électronique. Au départ, c'est le tambour à langue ou le tong drum. Et il est ici, dans sa forme électronique. Ça permet de déclencher différents sons de percussion en utilisant des boutons. Au final, on peut obtenir avec cet instrument-là des timbres proches de ceux d'une batterie. Florent, je vous cite, donc vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais je vous cite à nouveau, je vous une admiration sans limite à Alexandre Astier. C'est drôle, c'est musicologiquement toujours très documenté et exact. Et puis il y a les références que je vais me faire un plaisir de citer à nouveau, La Quinte Juste et Que Ma Joie Demeure, le spectacle. Un message d'auditeur qui parle d'Alexandre Astier. On ne peut franchement qu'être halluciné par les talents du bonhomme. Déjà que les musiques de Kaamelott, je dis bien Kaamelott hein, parce que c'est écrit avec deux A, comme Alexandre Astier, le scénario et la réalisation sont des pures œuvres d'art. Se dire que tout cela est le fait d'un seul bonhomme, c'est étonnant. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de compositeurs qui soient aussi metteurs en scène, librettistes, interprètes, acteurs, chanteurs peut-être, bref, c'est un respect qu'on doit à ce bonhomme. Un autre, voilà ce qu'il écrit, il dit sur le sujet de ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, le prélude en Do majeur en 15-16, il dit qu'il n'a pas de connaissance musicale suffisante pour juger du 15-16 ou d'autre chose. Tout ce qu'il sait, c'est qu'en écoutant cet air, son âme s'est mise à sautiller des bonheurs de l'enfance. C'est les bonheurs frais et joyeux de ses 5 ou 6 ans. Tout simplement, merci, dit-il, pour cette interprétation à la fois profonde et tendre qui a pu donner pour un moment une couleur plus intense à la vie. Ça fait, je reprends la formule, sautiller des bonheurs de l'enfance. Ça parle bien, non ?
Oui.
C'est intéressant, ce souvenir de quand on est enfant, c'est toujours l'enfance rêvée. Bon, Florence, encore un point commun, hein, c'est l'admiration, la vôtre et la mienne, d'Alexandre pour Alexandre Astier. C'est pas faux.
C'est pas faux.
Que diriez-vous, tiens, Florence, d'une interprétation musicale à trois ? Imaginons un trio. Dans ce trio, il y a Léa Desandré, Alexandre Astier et Florence Monzani.
Ah, quand ils veulent.
Allez, Yaka. Donc forcément, ils nous entendent ce matin. Alexandre, Léa, vous êtes à l'écoute de RDC 93.4 et 92.5. Alors faites-nous un signe parce que Florence Monzani, notre invitée du jour pour l'émission Donnez-nous vos notes, eh bien, elle est d'accord pour une collaboration artistique, musicale et pour une rencontre, quand vous voudrez.
Il est l'heure de donner nouveaux notes avec Stéphane sur RDC.
Avec Stéphane et surtout aujourd'hui avec Florence Monzani qui nous parle maintenant d'une famille. Est-ce que c'est une famille de musiciens? J'en sais rien. En tout cas, c'est la famille Adams.
Oui, parce que dans la famille Adams, il y a du clavecin, comme dans beaucoup de films de l'époque d'ailleurs. Parfois des clavecins un peu électronisés, parfois...
Des clavecins transformés?
Oui, oui.
Ou des oseraient?
Ou parfois des clavecins qui étaient des copies, comme on les faisait dans les années 70, c'est-à-dire pas exactement des copies historiques, mais il y en a beaucoup dans la musique pop et dans les films. Les films de vampires, ça marche bien.
Le son était différent?
Oui, le son était différent, parce que la facture de l'instrument était différente.
Alors, quel lien avec la famille Adams? Vous dites qu'on va entendre du clavecin, c'est ça? Qu'est-ce que c'est la famille Adams? C'est un film américain au départ, je crois. Hein, c'est une adaptation cinématographique des personnages de bande dessinée qu'un certain Charles Adams avait créé et ça a été popularisé dans une série télévisée, d'où la famille Adams comme nom finalement générique du film, de l'émission, etc. Et puis je crois qu'on va avoir des percussions corporelles qui vont nous rapprocher, tiens, du jazz, je vais dire. On a le clavecin qui nous fait penser à il y a quelques années, quelques siècles, les percussions corporelles, le jazz, c'était hier, et tout ça fait une grande famille musicale.
Oui.
On écoute ?
On écoute.
Allez, c'est maintenant la famille Adams. La famille Adams, version clavecin. Et c'est la bande originale ou c'est une réadaptation?
Non, c'est une réadaptation de Joyce Chen qui s'est amusée à faire ça.
Et j'entends presque du piano, moi.
J'entends le côté métallique du clavecin, moi. Mais...
comme qu'on n'a pas tous les mêmes repères. Il y a les percussions corporelles qui sont des claquements de doigts, c'est ça? Alors attention, auditeurs, c'est l'exercice et c'est maintenant. Je chantonne un petit morceau et on claque des doigts quand il faut. Et Florence, vous m'aidez, bien sûr.
Oui, oui.
Ta-da-da-da. Voilà, je pourrais écrire sur mon CV, a fait un duo avec Florence Monzani, à voix et percussion corporelle. On change de style, mais on reste sur quelque chose que moi je trouve très étonnant, le clavecin moderne, les usages variés, divers, différencié du clavecin. On va parler de tango, c'est ça?
Oui.
Libertango, qu'est-ce que c'est Libertango?
C'est une pièce d'Astor Piazzolla.
Ouais. Et lui, il l'a pas écrite pour le clavecin?
Non,
si
il l'a écrit pour le bandoneon.
Ouais. Qu'est-ce que c'est le bandoneon?
Une sorte d'accordéon, on va dire ça comme ça.
Ouais, c'est un cousin, ouais.
Un cousin.
Ouais. Et là, c'est le dernier extrait pour aujourd'hui, en tout cas le dernier extrait que vous avez choisi de nous faire entendre de manière enregistrée. C'est une rencontre entre deux clavecins, donc entre deux clavecinistes. C'est pas quatre mains cette fois.
Non,
c'est quatre mains, mais sur deux instruments.
Voilà, deux instruments. Donc on dit pas quatre mains, du coup on dit deux clavecins. Mario Rascagne et Oscar Milani. Ouais. Et là, pareil, c'est encore un arrangement de cette pièce-là qui.
Et puis au-delà de la rencontre entre ces deux instrumentistes et ces deux instruments, moi je vais retenir le mot de complicité. Et ajouter que cette complicité, dans ce que nous allons entendre, c'est la complicité de talents de deux grands musiciens et qui entraîne évidemment un partage du talent. Le partage, c'est quelque chose d'important pour les musiciens?
Oh oui, 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 jouer à plusieurs, rencontrer des gens, partager son art, et en général, oui, oui, c'est important pour moi en tout cas.
Deux clavecins, c'est assez rare, non ?
Oui, c'est assez rare, mais déjà il faut avoir les deux instruments à disposition.
Il faut avoir les deux artistes aussi.
Il faut avoir les deux artistes.
Non, les deux artistes, leur nom c'est quoi ? Vous avez dit
Mario Raskin et Oscar Milani.
Alors Mario Raskin, je crois que c'est un claveciniste argentin,
oui,
qui est né à Buenos Aires, qui vit à Paris. Il est ou il a été pionnier dans bien des domaines. Il a créé des œuvres contemporaines originales avec son compatriote et ami Oscar Milani, dont des transcriptions pour deux clavecins d'œuvres de Piazzolla, c'est pas la seule hein, qu'ils ont transcrite, mais aussi dans le répertoire baroque, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec des transcriptions exclusives d'œuvres de Jean-Sébastien Bach, comme le 6e concerto brandebourgeois et des suites pour orchestre. La presse internationale a toujours accueilli ses créations discographiques avec enthousiasme. Il a enseigné le clavecin à l'école municipale des arts de Joinville-le-Pont, d'Argentine en France, et au conservatoire à rayonnement communal Olivier Messant de Champigny-sur-Marne. Oscar Milani, lui, c'est un claveciniste argentin aussi, né à Rosario, où il a suivi des études de médecine et de musique, comme quoi l'un peut aller avec l'autre sans problème. Florence, on peut mener de front et avec succès plusieurs types d'études ?
On peut essayer, oui.
Et sa quête d'authenticité a permis à Oscar Milani une construction de l'un des premiers clavecins de facteur historique de son pays, ce qui fut chaleureusement salué par la critique. Il est professeur de clavecin, de musique de chambre et de basse continue à la Hochschule de Nuremberg et à la Hochschule für Kirchenmusik de Bayreuth. Qu'est-ce que c'est, basse continue ?
Basse continue ou basse chiffrée, c'est la manière dont on accompagne, en fait, quand on est au clavecin, dont on accompagne les voix qui vont avec la musique. Donc, en fait, on a une main gauche qui est écrite, uniquement la main gauche. La main droite, elle est chiffrée, un peu comme en jazz, en fait, il y a des accords. Et c'est au claveciniste de savoir ce qu'il doit jouer avec sa main droite. Donc, ça nous laisse la liberté de placer la main droite comme on veut.
Quand on dit c'est chiffré, c'est on voit 3 par exemple.
Oui, oui, voilà, c'est ça. On chiffre les intervalles par rapport à la basse.
Ouais, alors 3, ça veut dire quoi ?
3, ça veut dire la tierce. Donc si par exemple on compte les notes de la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do,
ouais,
si votre Do c'est votre basse, eh bien Do, Ré, Mi, on compte jusqu'à 3, Mi, vous arrivez sur la tierce.
Donc il faut jouer un Mi quand on voit
donc, voilà,
le 3
jouer...
par rapport à la note qu'on joue à la main gauche.
Exactement.
C'est un peu compliqué, non ?
C'est un petit peu compliqué au départ, mais après on est d'une efficacité redoutable pour aller vite. Parce qu'en fait, ça va beaucoup plus vite de lire quelques chiffres, c'est comme de la sténo, quoi, que de lire un tas de notes.
Est-ce que c'est à rapprocher de ce qu'on appelle les tablatures ?
Oui, c'est exactement ça. Les tablatures, c'est la manière ancienne de noter les accords pour les guitaristes, et c'est la manière également moderne de noter pour les guitaristes.
Et puis, Oscar Milani, il est prof de musique de chambre. Qu'est-ce que c'est la musique de chambre ?
La musique de chambre, c'est pas destiné à être jouée autour de son lit. La musique de chambre,
encore
c'est...
Encore plus à l'origine.
Oui, voilà. C'est destiné à être joué dans une petite pièce, on va dire ça comme ça. Pourquoi chambre ? Donc, musique de chambre, ça veut dire qu'on est quelques instrumentistes, mais pas trop. 2, 3, 4, 5. Après, on considère que ça commence à devenir un petit orchestre.
Un orchestre, oui. Et on a des orchestres de chambre, quand même, pour
et
faire
on a des orchestres de chambre.
Entre les deux, l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine, tiens, dont j'ai reçu il y a quelques temps déjà des musiciens. Donc, ce Milani, il est prof de musique de chambre, de clavecin et de basse continue, en Allemagne notamment. Il s'intéresse à tous les répertoires. Et lui aussi, il veut repousser et dépasser les frontières et les limites. Et donc, il n'hésite pas à aller vers le répertoire contemporain. Alors, il a interprété et enregistré lui aussi des œuvres de Piazzolla, en transcription originale pour deux clavecins avec Mario Raskin, on le disait tout à l'heure. Et puis, il y a le concerto du compositeur allemand Hugo Distler et la petite symphonie concernante de Franck Martin, un compositeur suisse.
Oui.
Tiens, Florence, on parle à nouveau de la Suisse. Mmh. Avec un Suisse qui a rassemblé pour l'œuvre que je viens de citer sa petite symphonie, une harpe, un clavecin, un piano et deux orchestres à cornes, s'il vous plaît. Quelle formation originale, n'est-ce pas ? Toujours le partage, c'est le aller vers l'autre, c'est aller vers les autres, c'est faire avec les autres, c'est ça ?
Oui.
Les musiciens sont partageux, les musiciens sont généreux ?
Oh, j'espère, oui.
Alors, Libertango, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'à la fin des années 60 en Argentine, il y a le régime nationaliste du général Ongania, et puis les expériences d'Astor Piazzolla sont devenues synonymes de nouveauté et de rupture. Et puis Piazzolla, finalement, il part, parce qu'il dit à Buenos Aires, je suis l'un des nombreux chômeurs qui remplissent les rues. Et puis il pense peut-être pas comme le bien-pensant général que je citais tout à l'heure. Donc il fuit et il va à Rome, dans un petit loft, dans la Via dei Coronari de Rome. Il compose Libertango, le tango de la liberté. Et quand c'est réécrit pour deux clavecins et que c'est joué par, j'ai complètement oublié les mots, les Oscar Milani et Mario Raskin, voilà ce que ça peut donner. On écoute ? Allez, c'est maintenant. Alors, Libertango, le titre est un mot valise qui mélange donc liberté, libertad, et puis tango comme un symbole du passage de Piazzolla du tango classique au tango nuevo, une évolution du tango. C'est peut-être aussi un appel, je le disais, à la liberté, impossible à l'époque dans le pays de naissance de Piazzolla. Et c'est aussi l'Argentine, le pays dans lequel sont nés les deux immenses clavecinistes, donc qui se sont réunis et que nous venons d'écouter grâce à vous, Florence. Parfois, on joue à plus de deux clavecins ?
Oh oui, on peut jouer à plus de deux clavecins. Alors, Jean-Sébastien Bach, notamment, a transcrit des concertos d'Antonio Vivaldi, qui à l'origine était pour violon. Et donc, il a transcrit des concertos pour deux, trois et un concerto pour quatre clavecins. Alors je dois dire qu'avoir quatre clavecins à un moment sur scène, c'est vraiment toujours quelque chose d'impressionnant. On a eu la chance de le faire il y a quelques années au Conservatoire de Grand Angoulême et vraiment c'est une belle œuvre.
C'est à refaire alors ?
Ah oui, c'est à refaire. Il faut trouver les quatre clavecinistes. Les quatre clavecins, on les a, on est très gâtés au conservatoire, donc on a ce qu'il faut. Il faut trouver les quatre clavecinistes qui ont un suffisamment bon niveau.
Avec l'association de clavecins dont vous parlez. Comment s'appelle l'association des
clavecins en France.
Voilà, oui, on l'a déjà fait avec clavecins. Ça devrait pouvoir se faire. Allez, on appelle Aurélien, on appelle qui d'autre encore, je ne sais pas, et pourquoi pas. En tout cas, ça sera avec plaisir que, tiens, à quatre clavecinistes, vous reviendrez nous voir.
Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Sur RDC 93.4 et 92.5. Et nous recevons aujourd'hui Florence Monzani. Tout à l'heure, c'était le moment du jeu. Et la question du jour, c'était: Florence Monzani est musicienne. Quel est son instrument de prédilection? Celui qu'elle connaît depuis qu'elle est née? Celui qu'elle enseigne au Conservatoire de Grand Angoulême. Florence, vous nous dites, quel est l'instrument dont je parle ?
Le clavecin.
Le clavecin, avons-nous un gagnant ou une gagnante ? Oui, elle s'appelle Josette. Josette, bravo, vous avez été la première à appeler le 05 45 95 09 87, le standard de RDC, pour dire que c'était le clavecin. Et c'est Josette qui a gagné, bravo elle. Qu'est-ce qu'elle a gagné ? Elle a gagné un CD ou un DVD et une invitation à assister, quand elle le voudra, à une prochaine émission de la série « Donnez-nous vos notes ». Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont tenté leur chance. N'oubliez pas de tenter votre chance à nouveau dans un mois lors de la prochaine émission, parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, évidemment. Pour conclure, ah non, j'aime mieux dire pour ne pas conclure, et pour donner l'envie d'en savoir plus encore, pour pour savoir encore plus ce que fait et qui est Florence Monzani, au clavecin ou ailleurs, au clavecin avec ses cousins aussi. Je pense que, comme moi, les auditrices et les auditeurs, vous serez enchantés d'entendre à nouveau Florence Monzani. Florence, peut-être que vous êtes partante pour interpréter quelque chose pour nous, là, pour la conclusion, et je vais oser vous demander d'interpréter quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, on ne va pas vous cacher, auditrices, auditeurs, qu'on s'est un peu mis d'accord sur la base, en tout cas, et la base de cette interprétation. C'est Florence qui nous en parle. Qu'est-ce que vous allez nous faire, si
alors,
je peux dire ?
Une improvisation, ça veut dire que c'est une musique qui, à l'heure actuelle, n'existe pas, qui n'existera plus après, parce que je ne me rappellerai plus exactement
oui,
de ce que j'ai joué.
Oui, mais elle est enregistrée. Nous, on l'enregistre.
Alors, quand on a parlé en amont de l'émission, vous m'avez dit, est-ce que vous accepteriez de terminer l'émission avec une petite improvisation ? J'ai dit oui, avec plaisir, et en y réfléchissant, je me suis dit, on peut faire un truc très drôle, c'est qu'il faut savoir que dans la musique anglo-saxonne, le nom des notes correspond à une lettre. C'est pas do, ré, mi, fa, sol, c'est A, B, C, D, etc. Et je me suis dit, ok, chouette, R, D, C, ça va pouvoir nous donner trois notes. Alors le R, il n'y a pas de note exacte qui corresponde à R, mais on peut dire que c'est Ré, si vous êtes d'accord. Le D chez les anglo-saxons, c'est Ré, donc ça nous ferait deux Ré de suite. Et puis le C, ça correspond à Do. Alors peut-être je vais choisir un Do dièse, comme ça on va faire Ré, Ré, Do dièse. Et puis on va tourner autour de ça. Et puis j'ai envie de faire, puisque l'instrument que je joue est une copie d'un instrument de 1620, de vous faire une petite danse, une petite forme qui pourrait exister comme à la Renaissance et comme on aurait pu l'improviser dans un salon à Anvers au XVIIe siècle.
Alors auditrice, auditeur, c'est maintenant, c'est une grande première. Ça va s'appeler peut-être, sait-on jamais, la suite RDC. Et c'est interprété maintenant par Florence Monzani au virginal. Merci Florence de cette unique interprétation, mais peut-être pas finalement de la suite RDC. Vous permettez, je l'appelle comme ça. Ça ressemble à quel type de danse ancienne ?
Ça ressemble à ces passamezzo, c'est-à-dire des basses, on parlait de basses obstinées tout à l'heure dans la chaconne. C'est un peu ça, l'idée de reprendre toujours la même chose et de faire ce qu'on appelle des diminutions, c'est-à-dire de diminuer les valeurs de rythme pour avoir des notes plus rapides dans la main droite, dans la mélodie.
Alors, suite de danse, et ça c'était la première des danses, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Maintenant, vous êtes condamnés à en inventer plusieurs pour nous.
Mais c'est vos invités qui vont être condamnés maintenant.
Voilà, c'est ça. Alors Florence, bon, on approche discrètement mais directement de la fin de l'émission. Je voudrais vous poser une question, certainement très vaste, mais quelques mots pour répondre. Le clavecin, pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument de musique indispensable dans un opéra baroque ? C'est une sonorité étrange à apprivoiser ? Ou c'est simplement, si je peux dire, un bel accessoire dans un film sur la reine Marie-Antoinette ? Ou c'est tout ça et quelque chose d'autre ?
Eh ben, c'est un instrument comme les autres, qui a ses particularités, mais quand les enfants, je parle des élèves que je vois venir, veulent commencer le clavecin, ils ne se posent pas toute la question qu'on met imaginais en tant qu'adulte autour de ça et tout le côté, oh là là, on va faire que de la musique ancienne, mon Dieu, ça va, on va être perdu dans ce répertoire-là. Un enfant, il arrive à l'instrument parce qu'il a le goût de cette sonorité, les copains qui en jouent, un prof avec qui il a eu le bon contact. Et moi, si je suis devenue claveciniste, c'est à la base, j'ai pas choisi, puisque j'avais la chance d'avoir un clavecin à la maison et que c'était tellement exceptionnel qu'on m'a dit, bah, tu feras du clavecin, ma fille. Et puis avec un papa qui en a construit, donc voilà, mon histoire, elle s'est construite un peu naturellement sans que j'aie besoin d'y réfléchir. Mais si j'avais quelque chose à transmettre aux gens qui sont autour de moi, c'est oui, c'est un bel instrument qui gagne à être connu et qui en tout cas permet une ouverture sur plein de choses.
L'instrument gagne à être connu, mais auditrice, auditeur, je vais rebondir sur cette déclaration de Florence pour dire que l'instrumentiste du jour gagne à être connu aussi. Voilà. Je vais oser vous dire, au risque de vous surprendre, ou peut-être ne serez-vous pas d'accord, que pour moi, le clavecin, c'est le cousin du piano, c'est le cousin de la guitare, c'est le cousin de l'orgue, et qu'il a traversé le temps et qu'il continue. Il est toujours là au bout de 5 siècles, renaissant tel un phénix de ses cendres, quand on l'avait cru disparu. C'est toujours alors du clavecin, je peux pas, j'ai clavecin, mais c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est hier, c'est toujours, c'est superbe, c'est un éternel instrument. Et puis c'est déjà l'heure de la fin, c'est bien dommage parce que moi je n'ai pas vu le temps passer, sans doute comme les auditrices et les auditeurs. Je crois que nous avons découvert un beau parcours aujourd'hui, celui de Florence Monzoni, celui qui passe par le clavecin et par ses associés, tiens, oserais-je dire, ou par ses dérivés, ses cousins. Florence, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur ce chemin aujourd'hui, sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5, dans l'émission Donnez-nous vos notes, que j'ai la chance d'animer. Quel superbe voyage vous venez de nous offrir, autant humainement que musicalement. Un voyage tout au long duquel vous avez été notre guide. Et quel guide ! Quel guide exceptionnel ! Vous recevoir ce matin du 28 novembre 2024 a été une grande joie. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Je ne doute pas qu'il en ait été de même pour l'auditrice et l'auditeur. Florence, merci beaucoup de votre passage dans les studios de RDC en tant qu'invité de l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai eu aujourd'hui encore le plaisir d'animer.
Merci à vous.
Dans la continuité des invités qui ont déjà donné leurs notes sur cette antenne, vous avez magnifiquement parlé de votre parcours musical, artistique et puis, ce que j'apprécie beaucoup, en donnant les anecdotes qui le rendent authentique, en parlant des moments de votre vie personnelle qui y sont liés. Merci et bravo encore. Continuez, s'il vous plaît, Florence, à nous régaler de vos notes. Continuez à œuvrer de mille manières pour la musique, ici, là, ailleurs. Auditrice, auditeur, dès que vous aurez l'occasion d'aller écouter et voir une prestation donnée par Florence Monzoni, seule ou avec des copains, des collègues, des amis, foncez, vous ne le regretterez pas. Auditrice, auditeur, merci encore à vous de votre fidèle écoute et des témoignages de satisfaction que vous adressez à RDC après chaque émission de Donnez-nous vos notes. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont joué. Bravo à Josette qui a gagné aujourd'hui. À bientôt pour une participation à une émission, pour assister, savoir comment ça se passe de l'intérieur. Florence, croiser votre chemin sera toujours, soyez-en persuadés, pour moi, un plaisir. Et rien n'empêche que dans quelques temps, vous fassiez une deuxième visite peut-être, accompagné d'autres instrumentistes. Je crois qu'on a pris un rendez-vous avec Léa et Alexandre. En tout cas, nous vous retrouverons avec grand plaisir. Un mot encore pour remercier Jean-Marc, toujours expert, pour apporter son soutien technique et permettre la meilleure écoute et la meilleure animation de cette émission. Donnez-nous vos notes. Auditrices, auditeurs, au revoir et à bientôt, j'espère, le 12 janvier prochain. Même lieu, même heure, Anne Lefebvre sera l'invitée de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC 93.4, 92.5. Pour une fois, Donnez-nous vos notes ne sera pas le quatrième jeudi, mais le deuxième jeudi. Le calendrier des invités fait parfois qu'il y a des changements, des modifications dans l'agenda de la radio, mais autre parcours, autre histoire, certainement, qui permettront là encore à Anne Lefebvre de nous donner ses notes avec la même passion que celle de Florence aujourd'hui. Florence, au revoir, et bientôt peut-être, non, à bientôt, au revoir. Dans l'attente, n'oubliez pas d'écouter RDC et l'émission Donnez-nous vos notes. Jean-Marc, au revoir. Tu peux envoyer le générique, parce que tu sais quoi ? Ah, le podcast sera pour bientôt, je pense, dès la semaine prochaine, accessible sur le site de RDC. Donc, le générique, parce que Donnez-nous vos notes pour aujourd'hui, c'est fini. Donnez-nous vos notes. C'est fini pour aujourd'hui, Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes ». Une note, des notes. Donnez-nous des notes, des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission, et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.